Alors, on va aborder ensemble une nouvelle série. Au tout début de la saison, on avait commencé à parler sur être disciple. Et on avait ensemble vu quels étaient les différents aspects d'être disciple de Jésus-Christ. Et après ça, on avait suivi avec une autre série qui était sur la religion. Parce que si on est disciple de Jésus, on ne peut pas être religieux, on ne peut pas tomber dans la religion. Et le but, c'était justement d'être le plus spirituel possible pour être le moins religieux possible. Et on va, d'une certaine manière, un peu logiquement, continuer notre progression et notre réflexion ensemble en parlant maintenant de l'Église. Parce que la Bible dit que les croyants composent une communauté qui porte ce nom, qui est appelée l'Église. Et les différentes questions qu'on peut être amené à se poser et auxquelles on va tâcher de donner des réponses sur les prochains samedis qui arrivent, c'est... Est-ce que l'Église est vraiment nécessaire? Pourquoi est-ce que Dieu a prévu que les croyants se rassemblent? Quel est le rôle de l'Église? Est-ce que ma relation personnelle avec Dieu, est-ce qu'elle n'est pas suffisante? Parce que c'est peut-être ça finalement qui est le plus important, c'est de connaître Jésus, c'est d'avoir une relation avec lui. À partir du moment où je peux m'adresser à lui, me confier en lui, est-ce que c'est vraiment nécessaire de pouvoir me retrouver avec d'autres personnes? Alors pour répondre à ces questions... On va ensemble se pencher sur les différentes images qui sont utilisées dans le Nouveau Testament pour parler de l'Église. Et on va commencer aujourd'hui par l'image du temple, puisque à plusieurs reprises, dans le Nouveau Testament, l'Église, la communauté des chrétiens, des chrétiennes, elle est comparée à un temple, à une maison. Alors, je vais juste vous donner deux exemples, à mon avis, les deux textes les plus significatifs. On trouve un premier passage dans Éphésiens 2, au chapitre 2, donc verset 19, où Paul dit « Vous êtes intégrés dans la construction », alors il parle des croyants, des chrétiens et des chrétiennes, « Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes et la pierre d'angle, Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et l'a fait s'élever pour former un temple saint consacré au Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, de la construction pour devenir, avec tous les autres, la maison que Dieu habite par son esprit. » C'est assez clair, hein. On voit bien que là, Paul compare les différentes personnes qui croient en Jésus, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, à une construction, à un temple saint, est-il dit. On a un autre texte qui se trouve dans la première lettre de Pierre, chapitre 2, au verset 4 et suivant. Où là, il est dit « Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes, dans la construction du temple spirituel. » Vous voyez l'image ? Là, Jésus, c'est la pierre sur laquelle va être construit tout le reste de l'édifice. Et les pierres qui vont être sur la pierre de fondation, c'est les chrétiens. Prenez place vous aussi comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. C'était dans le temple que officiaient les prêtres. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels, votre adoration, votre prière, qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Car voici ce qui est dit dans l'Écriture. J'ai choisi une précieuse pierre que j'avais placée comme pierre d'angle en Sion. Sion, c'est Jérusalem. Et celui qui lui fait confiance ne sera jamais déçu. C'est une façon de dire que quand on place sa confiance, sa foi en Jésus, eh bien, c'est comme cette pierre de fondation ou cette pierre d'angle sur laquelle on va pouvoir construire notre vie personnelle, mais qu'on va pouvoir construire l'Église. Alors, à partir de cette idée de l'Église comme temple, je voudrais voir trois points avec vous. Le premier point qu'on va voir, c'est que l'Église est un projet collectif. Une maison est constituée de plusieurs matériaux. Si la maison est construite en pierre, il va falloir plusieurs pierres pour construire la maison. Alors aujourd'hui, c'est un matériau qui est un peu moins utilisé parce que les maisons, elles sont surtout construites en béton, en briques. Mais à l'époque de Jésus, on utilisait plutôt des pierres. Et jamais tu vas creuser ta maison dans une seule pierre. T'imagines, si tu veux faire ta maison avec deux étages, cinq pièces, il faut que tu trouves une pierre énorme dans laquelle tu vas creuser ta porte, tes fenêtres, ta cheminée. C'est rare, ça existe, mais c'est très très rare. Généralement, on fait pas comme ça. On utilise les maisons, elle est construite avec plusieurs pierres qui sont assemblées les unes aux autres, qui sont associées les unes aux autres. Et c'était le cas du temple de Jérusalem. Parce que dans le Nouveau Testament, quand il est question du temple, les auteurs, ils avaient à l'esprit le temple de Jérusalem, qui était une construction magnifique, un des plus beaux monuments de l'époque, et qui avait été construit, qui avait été édifié pour honorer Dieu, pour adorer Dieu. Les Juifs, ils montaient à Jérusalem pour offrir des sacrifices, pour recevoir le pardon de leurs péchés, mais aussi pour pouvoir remercier Dieu de ce que Dieu leur avait donné. Et c'était vraiment une construction extraordinaire. D'ailleurs, je crois que j'ai mis des photos. Enfin, je suis sûr. Voilà, ça, c'est un plan. Ça vous donne un aperçu de ce qu'était le temple de Jérusalem. Un immense podium, une immense plateforme à laquelle on accédait par différents escaliers monumentaux, ici. Vous aviez une immense cour. C'était dans cette cour qu'étaient installés les vendeurs dont il est question dans le Nouveau Testament. Vous savez que Jésus va chasser les vendeurs du temple. Et puis, vous aviez une autre cour, une autre enceinte, dans laquelle le temple lui-même était construit. Là, ça fait plus de 200 mètres de longueur. C'était vraiment un monument extraordinaire qui avait été embelli, pratiquement reconstruit en entier par Hérode le Grand. Or, ce temple-là, cette construction, elle n'est pas d'un seul tenant. Elle pouvait exister, elle existait parce qu'il y avait des dizaines, des centaines, des milliers de pierres, de blocs de pierres qui étaient assemblés les uns aux autres. Je vais vous montrer ça pour de vrai, parce que on a eu l'occasion. Ah, ça, c'est une maquette qui se trouve au musée d'Israël. Et ça vous donne là aussi un autre aperçu. Donc vous voyez, là, vous retrouvez la cour, l'enceinte, les murailles. Et puis le temple lui-même qui est ici. Et puis, alors, la photo d'après. Ça, c'est ce qu'on appelle le mur des lamentations. Je pense que vous avez dû entendre parler du mur des lamentations de temps en temps. C'est une partie du podium. C'est pas un mur du temple lui-même. C'est une partie du podium sur lequel était construit le temple. Et généralement, là, les juifs orthodoxes, les juifs pieux viennent se recueillir et prier ici. Parce que le temple n'existe plus. Il a été détruit par les Romains au 1er siècle de notre ère. Et ça vous donne un peu, là, une idée de l'assemblage de ces pierres pour pouvoir construire. Alors là, le podium. Mais le temple, il était construit de la même manière avec des pierres qui étaient assemblées les unes avec les autres. Si on voit la photo d'après, ça donne encore un autre aperçu. Ça, c'est justement la pierre d'angle. C'est l'angle sud-est du podium. Donc là, vous avez la pierre de fondation et puis ce qu'on appelle les pierres d'angle. Donc ça nous permet aussi de comprendre le texte qu'on a lu tout à l'heure. Mais vous avez vu les blocs énormes que ça représente. Des blocs qui ont été tirés des carrières, qui ont été sculptés. Donc c'était vraiment des pierres magnifiques. Et vous voyez un peu là comment les pierres sont assemblées les unes aux autres. Si tu peux mettre la photo d'après, là vous avez une photo qui est prise de plus proche et on voit que les pierres sont posées les unes sur les autres. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mis de ciment ou rien de liant entre les pierres, mais elles étaient tellement bien taillées, elles étaient tellement énormes que les unes assemblées aux autres, ça tenait debout. C'est un travail absolument extraordinaire. Un temple est constitué de plusieurs pierres. Le mot « église » en grec, c'est le mot « ecclesia » et ça veut dire « assemblée ». Et ça désigne le fait de se rassembler, d'être ensemble physiquement. Et le désir de Dieu, c'est justement que ceux qui croient en lui, ses enfants, se rassemblent. Et ça, c'était déjà le cas avec le peuple d'Israël. Est-ce que tu sais à quelle occasion les Israélites se rassemblaient ? Dieu a ordonné, hein. C'était dans la loi, que les Israélites se rassemblent périodiquement. Et il a institué des événements pour ça. Alors, est-ce que vous avez des idées, Kevin? C'est ça, toutes les fêtes religieuses. Alors ça, c'est la réponse globale, mais qui peut me dire quelles sont ces fêtes? Alors, certainement, il y en a que vous connaissez, parce que il y a certaines fêtes qui étaient dans le calendrier juif, qui sont passées dans le calendrier chrétien. Il y en a même une qui est pratiquement d'actualité. La fête de Pâques, ouais, c'était la semaine dernière. Donc effectivement, la fête de Pâques qui était célébrée au printemps. C'est toujours le cas aussi avec les chrétiens. Après la fête des Pâques, il y avait... parce que la fête de Pâques, c'était un jour. Et tout de suite après, pendant 7 jours, il y a la fête des pains sans levain. Donc pendant 7 jours, Dieu disait, vous allez vous rassembler ensemble pour commémorer justement la sortie d'Égypte. Est-ce que vous connaissez d'autres fêtes, d'autres occasions de rassemblement?
Je sais pas trop ce que c'est la fête de la
La fête de la dédicace. Alors, c'est la seule fête juive qui n'est pas dans la Bible. Bingo. Parce qu'en fait, elle a été... Oui, elle est dans le Nouveau Testament, mais elle a pas, elle est, toutes les autres fêtes dont je parle là, elles sont instituées par Dieu. Elles sont mentionnées dans la loi. Celle-là, pas. Elle a été instituée plus tard, au deuxième siècle avant notre ère, parce que, alors, bon, dans des circonstances historiques, mais on va s'égarer. Mais t'as raison, hein. C'était aussi une occasion de rassemblement. Mais est-ce qu'il y a d'autres fêtes? Donc, on a parlé de Pâques. La fête des tentes, effectivement. Ça, c'était en septembre, octobre. Donc ça, c'est aussi pour commémorer le voyage dans le désert. Entre Pâques et la fête des tentes, ou la fête des cabanes, il y en a une autre, qui est aussi dans le calendrier chrétien. Chez les chrétiens, elle est associée au Saint-Esprit. Voilà. La Pentecôte. Voilà, la Pentecôte, là aussi, c'était à 50 jours après Pâques, il y avait la fête de la Pentecôte. C'était aussi donc c'était en mai-juin généralement qu'elle est célébrée. En septembre-octobre aussi, il y a la fête des trompettes. Il y en a question dans la Bible. Et il y a aussi le jour des expiations ou le jour du grand pardon. Et pour ces fêtes, il y avait ce que la Bible appelle une sainte convocation. C'est l'expression qui est utilisée dans le livre du Lévitique. Vous irez voir au chapitre 23. Une sainte convocation. Ça veut dire que c'est Dieu qui demande à son peuple de se rassembler, comme ça, de manière régulière. Et, alors, on pourrait se dire, bon, ok, une fois au printemps, une fois 50 jours après, plusieurs fois en septembre, octobre, mais entre. Eh ben, il y avait aussi une sainte convocation qui devait être observée chaque semaine, parce que la loi ordonnait aussi le sabbat. Et le sabbat, ça, c'est donc c'est le samedi. Et tous les samedis, les juifs, les israélites, devaient se rassembler pour méditer la parole, pour pouvoir là se retrouver ensemble et rendre à Dieu un culte. Une fois par semaine. Dieu, il a prévu, c'est dans sa volonté, c'est dans sa vision des choses, que ceux qui croient en lui, ceux qui constituent son peuple, se réunissent ensemble, se rassemblent. Et c'est ce que faisaient les premiers disciples à Jérusalem. Quand tu regardes le début de l'histoire de l'Église, dans le livre des Actes des Apôtres, au tout début, au chapitre 1, au verset 13, il est dit que les disciples, quand ils furent arrivés à Jérusalem, Jésus là vient de retourner au ciel après sa résurrection, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient d'habitude, en haut d'une maison. Ils avaient donc l'habitude de se réunir ensemble. Et quand tu lis le livre des Actes des Apôtres, tu vois que régulièrement, les chrétiens, les chrétiennes, les croyants se réunissent ensemble. Même chose, quand tu lis les lettres de Paul, par exemple, quand Paul il parle du repas du Seigneur, de la Sainte Cène, il dit, c'est vous prenez le repas du Seigneur, vous prenez le pain, le vin, quand vous vous rassemblez, quand vous vous réunissez. Les dons spirituels aussi, il dit que les dons spirituels, c'est dans l'assemblée de l'Église tout entière, lorsque vous vous assemblez. Et on voit que le texte dit bien que les chrétiens, c'était leur usage de se réunir régulièrement. La plupart du temps, le dimanche, parce que c'était le jour de la résurrection de Jésus. L'Église, c'est une réunion, c'est un rassemblement des croyants. On est destiné à vivre notre foi avec les autres, pas de façon individuelle et isolée. C'est très facile aujourd'hui de vivre sa vie chrétienne en solo. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on peut se dire, bah, l'important, c'est ma relation personnelle avec Jésus. Ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment indispensable et nécessaire, c'est mon temps de prière personnelle. C'est quand je cherche Dieu, que je lui parle, que je l'écoute. Ce qui est vraiment important, c'est mon temps de lecture de la Bible personnelle. Me rassembler avec les autres, c'est secondaire, c'est pas vraiment utile. À partir du moment où j'ai cette démarche personnelle, c'est moins utile de me retrouver avec les autres. Sauf que, à la lumière de ce qu'on vient de voir ensemble, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, quand tu raisonnes comme ça, tu juges que tout un aspect de la volonté de Dieu est secondaire, puisque c'est son désir que les croyants se rassemblent. La pratique de la vie chrétienne en solo est beaucoup facilitée aujourd'hui par les nouvelles technologies. De plus en plus, c'est facile de pouvoir assister à un culte en direct. Tu te branches sur Internet, tu vas sur, là, tu trouves le site d'une église et il y a des églises maintenant qui font ça, c'est de plus en plus fréquent, où tu peux assister au culte en étant dans ton canapé. Tu peux assister au culte en étant en pyjama, en fait. Aujourd'hui, c'est possible. Et ça gêne personne, t'as pas honte, parce que t'es dans ton canapé, t'entends les chants, tu vois le prédicateur, tu peux avoir ta tasse de chocolat dans la main, et puis participer à un culte de cette manière-là. C'est faisable aujourd'hui. Tu peux, même si le culte n'est pas en direct, mais il y a tellement de messages maintenant sur Internet que tu peux trouver un message que t'as envie d'entendre. Ce qu'il y a de bien dans ces cas-là, c'est que tu choisis le message. Tu prends le message que t'as envie d'écouter. Et si le message, s'il t'intéresse pas, tu peux arrêter puis en écouter un autre. C'est assez pratique. Donc tout ça, évidemment, c'est facile. Alors je dis pas que c'est mal, parce qu'il y a vraiment des bonnes choses et il y a des choses qui sont édifiantes. On peut écouter des messages comme ça, des églises ou qui peuvent vraiment, des messages qui sont vraiment encourageants. Ça c'est pas un problème. Et puis des fois, quand on est malade, c'est toujours mieux de pouvoir être là, même si on est dans son lit. On entend le message et on est édifié si on peut pas venir à l'église. Donc toi, il y a pas de problème par rapport à ça. Mais c'est quand ça devient la logique, c'est quand ça devient la pratique normale et que tu vis ta vie d'une manière très individuelle comme ça, en solo. On peut pas s'unir en écoutant chacun nos messages d'un côté et de l'autre. On a besoin de se rassembler à un moment donné sur notre réalité locale. Si Dieu veut qu'on se rassemble, justement, c'est pour qu'on s'unisse pour faire des choses ensemble. Il y a un discours qui me gêne de plus en plus, parce que j'entends des gens qui disent « Moi, je fais partie de l'Église universelle. Je fais partie de l'Église invisible. Je fais partie de tous ces croyants. » Alors, je les connais pas forcément, mais du fait que je suis chrétien, j'ai un lien spirituel avec tous les chrétiens du monde, même si je joue de la guitare tout seul dans mon salon et que je loue le Seigneur, en fait, ce qui est important, c'est ce lien spirituel. Je suis l'Église. L'Église, elle est là où je suis. Eh ben non. Non. Tu n'es pas l'Église quand tu es tout seul. Parce que l'Église, c'est une communauté, c'est une assemblée, c'est le sens du mot. On est un élément de l'Église, chacun pour notre part. Mais on ne peut pas mélanger le singulier avec le pluriel. L'Église, elle est forcément plurielle. L'Église, c'est quelque chose qui est concrètement collectif. Comme les pierres qui sont assemblées les unes aux autres pour faire une belle construction, pour faire un temple. C'est comme si je disais, moi, je suis la France. Je suis la France. C'est pas cool pour les 60 autres millions de Français. C'est comme si Divin disait « Je suis le Burundi ». Baudry, c'est pas cool pour Baudry. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Si je dis « Je suis l'Église », ça colle pas, parce que c'est collectif. Il est question d'un rassemblement. Dieu a prévu que les chrétiens se rassemblent pour vivre des choses ensemble, pour faire des choses ensemble, pour comprendre des choses ensemble. On est beaucoup plus fort quand on est unis les uns les autres sur la même compréhension de la parole, quand on a les mêmes objectifs. Et c'est ce projet que Jésus met en place quand il dit « Je bâtirai mon Église ». On va voir un deuxième point maintenant. Quand, avec les leaders, on a décidé d'aborder la question de l'Église, on ne connaissait pas le sujet qu'allait aborder Jean Le Pennec dans le cadre du rassemblement d'Actival. Et il a parlé de ça, hein. Il a pris ce texte-là où Jésus dit à Pierre, à l'apôtre Pierre, « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et donc ça tombe vraiment bien, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Et le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est « L'Église est un projet divin ». Et on va relire ensemble ce texte qui se trouve dans Matthieu 16, juste le verset 18, où Jésus dit à Pierre, « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne domineront pas sur elle. » Jésus dit à Pierre, « Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. » Il y a un pronom personnel, « je », et il y a un adjectif possessif, « mon ». Ça veut dire que c'est le projet de Jésus. On comprend bien ce qui est dit, on est d'accord. Hein, vous êtes d'accord avec cette exégèse, cette analyse du texte très profonde que je suis en train de faire ? « Je bâtirai mon Église. » C'est moi qui vais faire. Il est directement impliqué dans ce qu'il projette de faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il emploie le vocabulaire de la construction. Alors, comme on est en train de parler du sanctuaire, du temple, ça tombe bien. Alors peut-être parce que Jésus était charpentier, vous savez, il était ouvrier du bois, et donc il avait l'habitude là de sans doute de construire des maisons. Et quand il prononce ces paroles, quand il est en train de dire « je bâtirai mon église », c'est comme s'il était en train de tracer le plan d'une maison. Il est un peu là dans la peau de l'architecte qui est en train de faire son projet. C'est un architecte, là, quand il imagine une maison, il voit où sera l'escalier, il voit là où sera la salle de bain, le salon, l'aménagement. Et Jésus, il est comme un architecte qui est assis devant son plan de travail. Enfin bon, maintenant, il est devant un ordinateur. Mais il est en train d'imaginer ce qu'il va pouvoir faire. J'ai un projet. Je vais bâtir mon église. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de penser qu'un charpentier de Nazareth, un petit ouvrier sorti d'un village perdu dans la campagne de Galilée, ait conçu un projet qui existe encore 2000 ans après et qui a atteint des millions et des millions de personnes pendant des générations et partout, partout, partout dans le monde. Un petit charpentier qui est sorti d'un tout petit pays, le pays d'Israël, et qui a été à l'initiative d'un projet qui s'est répandu dans toute l'Europe, après qui s'est répandu en Afrique, sur le continent américain, et même en Asie, partout, partout. C'est fou, cette histoire. Au départ, il y avait juste Jésus, avec une toute petite équipe, la plupart des pêcheurs, pas beaucoup de moyens, aucune formation, des gars qui étaient des fois un peu des bras cassés quand même. Et avec cette équipe-là, avec les faibles moyens qu'il a, il fait un truc extraordinaire. J'imagine là Jésus qui est là, qui s'adresse à ses disciples, s'adresse à Pierre et aux autres, il dit « Waouh les gars, on va faire un truc génial. Je vois quelque chose qu'on va pouvoir faire. On va former une communauté révolutionnaire. On va former ensemble une nouvelle société. Ça va être une société, une communauté où les gens vivront en paix. Ça va être une société où on pourra s'encourager les uns et les autres. Ça va être une société où on sera aimé, quelle que soit notre origine, quel que soit notre sexe, on sera aimé. C'est une société dans laquelle on pourra être guéri, on pourra trouver la guérison de nos corps, on pourra trouver la guérison de nos âmes, de nos blessures intérieures. On va faire ce projet-là. Ok ? J'imagine Jésus, il arrive là, il dit, ok Pierre, top là, c'est parti. Et les 12, ils ont dit, waouh ! Il y a un succès extraordinaire. Qu'est-ce qui a été fondé il y a 2000 ans et qui existe encore aujourd'hui ? J'ai essayé un peu de réfléchir à ça. Un peu difficile de trouver. Hein. Même l'Empire romain. L'Empire romain, c'est un empire qui se voulait éternel. On a des textes comme ça, hein, de Romains qui disent, nous, là, ce qu'on a bâti, on a conquis tout le pourtour méditerranéen, on est la meilleure civilisation, la plus grande civilisation du monde, on est parti pour exister pour toute l'éternité. L'Empire romain, il n'existe plus aujourd'hui. Et il avait été fondé même avant Jésus. Les grands cultes de l'époque, la divinité, une des divinités les plus populaires à l'époque de Jésus, c'était la déesse Isis, une déesse égyptienne. Ou le dieu Mithra, un dieu perse. Isis, Mithra, aujourd'hui, on n'entend plus parler, hein, plus beaucoup. En tout cas, il n'y a plus d'adorateurs d'Isis ou de Mithra. Qu'est-ce qui a été fondé il y a 2000 ans qui existe encore aujourd'hui ? Parce que toutes les entreprises de grande ampleur n'ont pas forcément le même résultat. Tu peux avoir une super idée, un super projet, un truc vraiment à bâtir qui peut être intéressant, exaltant, mais c'est pas sûr que tu vas forcément y arriver. L'année dernière, en 2015, il y a un architecte anglais qui s'appelle Jonathan Wilson qui a établi le projet très ambitieux de construire Minas Tirith. Qui connaît Minas Tirith ? Bon, il y a que Sandrine qui connaît Minas Tirith, là ? Oh non, bah non. Il y a que Sandrine, il y a que ma famille qui connaît Minas Tirith. Minas Tirith, c'est une ville c'est la capitale du Gondor. Vous vous souvenez du Gondor ? Non ? Ouais, dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà, Minas Tirith, c'est une ville, la ville blanche, elle est surnommée la ville blanche, une ville magnifique qui est construite à flanc de montagne. Cet architecte, il s'est dit, mais c'est magnifique, c'est beau. Alors, je voudrais construire Minas Tirith. Alors, pour que vous vous rendiez compte de ce qu'est Minas Tirith, on va vous passer un extrait du Seigneur des Anneaux. Et vous allez voir, vous allez vous rendre compte du projet que le gars, il a eu.
royaume du condor.
Ça, c'est Minas Tirith.
Minas Tirith.
Voilà.
La cité des rois.
Ok, on va s'arrêter là. Vous avez un aperçu de ce qu'est Minas Tirith. C'est vrai que si tu arrives à construire ça, c'est un projet extraordinaire, bâtir une ville comme celle-là. Alors, pour parvenir à ses fins, cet architecte, il fallait qu'il réunisse 2,6 milliards d'euros seulement. Donc dans les 2,6 milliards d'euros, il y avait l'argent pour acheter les terrains. Il avait repéré un coin dans le sud de l'Angleterre pour construire la ville. Et puis il y avait le paiement de la main d'œuvre, l'achat des matériaux. Et pour pouvoir parvenir à avoir tout cet argent, il a lancé ce qu'on appelle une campagne de levée de fonds. Alors bon, il a allé sur les sites internet, vous savez, puis vous mettez l'argent que vous voulez pour pouvoir réunir, pour pouvoir participer au projet. Et donc, il a promis que les donateurs auront leur nom gravé sur les monuments. Ils pourront même avoir un séjour dans un appartement au sommet de la citadelle. C'est vrai que la vue doit être magnifique de là-haut. C'était possible aussi d'acheter le titre de seigneur de Minas Tirith pour 126 697 euros. Donc, là, si tu faisais un don conséquent, tu avais le titre de lord de Minas Tirith. Et si quelqu'un donne 4 euros, il pouvait gagner un follow sur Twitter. C'est toujours sympa. Mais malheureusement, la communauté de l'anneau a eu du mal à se mobiliser parce qu'il n'a réussi à réunir que 111 000 euros. Donc on est loin des 2,6 milliards d'euros, on est d'accord. Ce qui montre bien qu'il ne suffit pas d'avoir un rêve magnifique. Il ne suffit pas d'avoir une superbe ambition. Il ne suffit pas là de vouloir se donner les moyens pour qu'un projet puisse prendre forme. Donc là, le projet de Jésus, il a pu prendre forme parce que c'était le projet de Dieu, c'était son projet à lui, et qu'il a dit que ce serait lui qui le bâtirait. Je bâtirai mon église. Moi, là, avec la puissance que Dieu m'a donnée, parce que ça va être son projet, ce projet-là, il va sortir de terre. Il va devenir un projet magnifique. L'église, c'est un projet divin. C'est ce que Dieu a voulu. C'est un projet indestructible. C'est un projet éternel. Et c'est ce que veut dire Jésus quand il dit que les portes du séjour des morts ne domineront pas sur elle. L'Église, c'est une force irrésistible qui n'a cessé de progresser malgré les embûches, malgré la persécution, malgré l'opposition. La mort n'a pas de force contre l'Église. Si tu prends simplement l'opposition que connaît l'Église aujourd'hui, le pays le plus persécuteur du monde, c'est la Corée du Nord. Si t'es coréen et que tu deviens chrétien, t'es automatiquement jeté dans un camp de travail dans lequel tu vas mourir. T'es sûr que t'en sortiras pas. Eh bien, malgré la persécution, malgré les morts qu'il y a, chaque année, il y a des chrétiens qui se convertissent. On estime qu'il y a plus de 300 000 chrétiens en Corée du Nord, alors que c'est complètement interdit d'être chrétien. Tu vas en Iran. En Iran, c'est une théocratie islamique. Pareil, si t'es iranien, t'as pas le droit d'être chrétien. Si t'es chrétien, tu peux être condamné à mort. Et il y a une centaine de chrétiens qui sont en prison. Eh bien, les estimations qui sont faites en ce moment considèrent qu'il y a alors l'estimation basse, c'est 450 000 chrétiens, et l'estimation haute, c'est 1 million. 1 million de chrétiens. Donc, il y a de l'opposition. On a l'impression qu'il y a des forces de mort qui veulent s'opposer à l'Église. Et en réalité, elle continue de grandir. L'Église, elle est à l'origine de choses extraordinaires. L'Église, elle est à l'origine des écoles. L'Église, elle est à l'origine des universités. Elle est à l'origine des orphelinats. Elle est à l'origine des hôpitaux. Tout ça, ça vient de la foi chrétienne. Ça, c'est vraiment exaltant. Un projet comme celui-là, c'est vraiment exaltant. C'est logique de trouver dans l'Église ce dont nous avons besoin. Dans une Église, tu vas pouvoir trouver des amis, tu vas pouvoir faire l'expérience de l'amitié, tu vas pouvoir trouver des encouragements si tu es dans des moments où ça va pas, tu vas pouvoir trouver la prière, tu vas pouvoir trouver la louange, comme on l'a fait tout à l'heure, et ça, c'est bon, ça restaure, c'est des bons moments. L'Église, c'est un espace dans lequel on peut exprimer nos talents aussi, on peut exercer nos ministères, quels qu'ils soient. Et tout ça, ça contribue à notre épanouissement personnel. Quand on sait chanter et qu'on peut chanter pour Dieu, c'est bien. Quand on sait jouer de la musique, c'est bien. Quand là, on est habile pour être technicien, quand on sait accueillir les gens. Enfin, tout ça, c'est bien. Ça contribue à notre épanouissement. Mais tout cela, il faut se rendre compte que ça s'inscrit dans un projet qui est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Ça s'inscrit dans une œuvre dont la portée est éternelle. Si je te dis ça, c'est parce que ça nous aide à prendre du recul. Parce que ce qui compte, c'est pas simplement ce que je reçois dans l'Église, c'est aussi ce que j'accomplis. Dans une construction, comme on le voyait tout à l'heure, les pierres, quand elles sont associées les unes aux autres, elles se communiquent leurs forces l'une à l'autre. Il y a une poussée que chaque pierre fait contre l'autre. Donc c'est un peu comme quand on est ensemble, quand on forme cette communauté, on reçoit cette force les uns des autres. Cette énergie, cette force, on la reçoit les uns des autres dans nos relations, dans le contact qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et ce qui fait que ce que j'accomplis dans l'Église, ça va pouvoir avoir une portée éternelle. Je vais pouvoir apporter une parole à quelqu'un qui est désespéré et ça va changer sa destinée. À quelqu'un là qui a plus d'espoir, je vais pouvoir lui dire « mais Jésus t'aime ». Jésus, il a la possibilité de faire quelque chose pour toi. Tu peux t'adresser à Dieu parce que Dieu est vivant. Dieu entend ta prière. Et ça peut complètement changer la destinée d'une personne. Tu peux avoir une parole d'encouragement pour quelqu'un qui est ici, qui n'en peut plus, qui est au bout du rouleau. Pour quelqu'un qui a plus d'espoir. Et tu vas pouvoir là lui dire, je vais prier pour toi. Je vais t'accompagner. Tu vas avoir une parole qui va communiquer quelque chose dont cette personne a besoin à ce moment-là. Et là, sa destinée peut changer également. Tu vas là pouvoir simplement prendre du temps pour écouter une personne parce qu'elle a besoin de se confier, parce qu'elle ne sait pas où elle va. Et simplement le temps que tu vas prendre, dans le contact que tu vas avoir avec elle, tu vas pouvoir changer les choses. Alors qu'elle est désespérée, alors qu'elle se sent seule, elle va pouvoir retrouver du courage et de la force. Tout ça, ça peut changer la destinée d'une personne. Une des choses que j'apprécie le plus dans Actival, ça fait quelques années maintenant dont je suis le responsable, c'est de voir tout ce que ça apporte aux jeunes de cette région. Il y a aujourd'hui des gens qui sont engagés dans Actival, qui se lèvent pour le ministère, par exemple. Il y a des gens là qui étaient perdus, qui étaient désespérés et qui ont retrouvé de la force, qui ont été reboostés. Des gens qui s'avancent à l'appel et puis quand on prie pour eux, ils disent « ça y est, maintenant je veux changer de vie, c'est terminé, là ce que j'ai expérimenté, je veux plus de ça, je veux vraiment la vraie vie ». Et de se dire que là, ces rassemblements qu'on organise, ça peut changer une destinée. Ça peut réorienter une vie. Quand tu considères que l'Église, c'est une œuvre éternelle, c'est une œuvre là qui ne finit pas, et que ce que tu accomplis, tu le fais dans cette perspective-là, mais c'est extraordinaire. C'est pas simplement de se réunir de temps en temps le samedi soir ou le dimanche matin. Mais simplement, même la parole que tu vas entendre, peut-être ce soir, ou la parole que tu entendras demain matin, elle va changer quelque chose dans ta vie. Et c'est ce que permet l'Église. Et le troisième et dernier point que j'aurais voir avec toi ce soir, c'est que l'Église est un projet personnel. Alors, wow, on a vu tout à l'heure que l'Église, c'était un projet collectif. Et maintenant, tu nous dis, là je me mets à votre place, hein, évidemment, je comprends, vous. Tu nous dis, Xavier, c'est un projet personnel. Donc il faut que tu te mettes d'accord avec toi-même. Parce que, en fait, entre les deux, j'ai quand même dit que c'était un projet divin. Donc ça veut dire que Dieu s'implique. Et ça, ça a une conséquence. Jésus a dit, tu es Pierre, donc il s'adresse à son disciple, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est Jésus qui bâtit, c'est Jésus qui bâtira, mais avec Pierre. puisqu'il lui dit « tu es Pierre » et sur cette, il fait un jeu de mots sur son nom. Et il le compare à une pierre sur laquelle il va bâtir l'Église. Et on sait, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, que Pierre a joué un rôle déterminant dans, au début de l'histoire de l'Église. C'est lui, à la Pentecôte, c'est lui qui annonce la résurrection de Jésus à tous les Juifs qui sont rassemblés. Et puis, quelque temps, tu tournes les pages du livre des Actes. Après, tu le vois, il va adresser l'Évangile à Corneille. C'était un non-juif, c'était un païen. Donc, il a joué un rôle déterminant dans le début de l'Église. Ça indique que Jésus ne travaille pas seul. Il bâtit avec ses disciples. Et c'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens, c'est le dernier texte biblique qu'on va lire ensemble, chapitre 3, verset 10. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, Paul dit, j'ai posé le fondement, la fondation, comme un sage architecte, et un autre bâti dessus. » Il s'adresse aux Corinthiens, et c'est lui qui a fondé l'église à Corinthe. C'est lui qui est le premier à prêcher l'évangile à Corinthe, et il y a des gens qui sont devenus des chrétiens. Donc il se compare à un architecte qui a posé une fondation. Mais il dit aux chrétiens qui maintenant constituent cette assemblée, cette église, il dit « mais que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit dessus ». Il est en train de dire « mais vous aussi, vous êtes impliqués dans la construction de l'église maintenant ». Car personne ne peut poser une autre fondation que celle qui a été posée, à savoir Jésus-Christ. Il dit ça, c'est pas négociable. Ce qui doit être à la base de votre foi, ce qui doit être à la base de votre proclamation dans la communauté que vous formez, c'est Jésus. Regardez toujours à Jésus. Il faut que ce soit lui qui soit au centre, qui soit votre fondation. Or, si quelqu'un bâtit sur cette fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera révélée au jour du jugement. En effet, ce jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Il est en train de dire, vous êtes responsable de la manière dont vous construisez, de la manière dont vous participez à la vie de l'Église. Est-ce que vous participez avec des matériaux riches, nobles, comme l'or, l'argent, les pierres précieuses, ou alors est-ce que c'est avec du bois, du foin ou du chaume ? On continue la lecture. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur la fondation subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. La plupart du temps, quand j'entends utiliser ce texte-là, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous, toujours on le prend pour nous en tant que personne. On dit tu es le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en toi. Sauf que là, on a remis les choses dans le contexte, et là, Paul est en train de dire que c'est l'Église qui est le temple du Saint-Esprit. C'est l'Église. Alors, ce texte-là, on l'utilise pour dire qu'il n'y a pas le droit de se suicider, parce que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Mais il n'est pas du tout question de ça. Ou alors, faut pas pour interdire de fumer ou de se droguer, parce que forcément, ça détruit le corps. Mais là, le corps dont il est question, c'est... Le temple dont il est question, c'est l'Église. Et là, Paul est en train de dire que, en fait, la manière dont je vais m'engager dans l'Église, la manière dont je vais participer à la construction de l'Église, eh bien, elle va édifier, elle va participer à la construction de l'Église, ou alors, elle peut détruire l'Église. Tout dépend ce que je vais faire, tout dépend ce que je vais dire, tout dépend dans quel esprit je vais accomplir les choses. Jésus bâtit l'Église parce qu'il agit en nous par son esprit. Ça signifie qu'on a quand même une part à faire dans la construction de l'Église. Même si l'Église est le projet de Jésus, elle sera ce que nous en ferons. Et c'est pour ça que les membres de l'Église sont appelés à se mettre d'accord sur ce qu'ils veulent. On est appelés à se mettre d'accord sur ce que nous voulons faire en tant que communauté, en tant que groupe, en tant qu'Église. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? C'est quoi nos objectifs? Qu'est-ce qu'on veut construire? Comment est-ce qu'on s'accorde pour faire de l'Église un temple vaste et magnifique, construit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses? Parce que on comprend bien que c'est plutôt ça qu'il faut viser. Est-ce que l'on travaille à faire quelque chose de beau et de solide? Ou bien est-ce qu'on travaille à faire quelque chose de fragile? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir une maison pour 12 000 euros. Qu'est-ce que tu dis? Non, elle a pas de roulante. Elle a pas de roue. Mais pour 12 000 euros, tu peux avoir une maison. Il y a un ingénieur anglais qui s'appelle Mike Page qui a imaginé une toute petite maison en kit à monter en 4 heures pour 12 732 euros. Alors voilà à quoi ça ressemble. En 4 heures, tu peux construire ta maison pour un prix tout à fait abordable. Alors bon, évidemment, à l'intérieur, il y a des volumes un peu restreints, mais les aménagements sont optimisés. Alors tu peux voir les... Voilà, c'est ça. Voilà, ça se présente comme ça à l'intérieur. T'as une entrée, t'as un salon en bas, là où est la dame, t'as une cuisine, t'as une salle de bain. À l'étage, là, t'as les escaliers, t'as un lit de place. Donc, c'est vraiment, là, aménagé de la meilleure façon possible. Alors, le confort moderne n'est pas oublié, hein. Il y a l'éclairage par un système de LED, t'as un téléviseur qui est accroché au mur. Là, voilà, là, t'as la cuisine, t'as la salle de bain, vas-y. Bon, la salle de bain qui est là. T'as une douche qui est quand même de dimension respectable. T'as un lave-linge, t'as une hotte pour la cuisine. Donc, il y a quand même... Et puis, cette maison-là, tu peux la poser où tu veux, en gros. Hein. Je crois que j'ai fait... Voilà. Tu peux la poser dans le parc qui est en face de la maison de tes parents. J'en sais rien. Donc en fait, une fois qu'elle est construite, soit tu la construis sur place, soit tu la déplaces avec une grue et puis tu la mets où tu veux. Alors bon, ok, ça peut rendre service. Le concepteur, il a dit que c'est bien pour les étudiants. Alors je sais pas, il y a pas mal d'étudiants dans cette assemblée. Donc ça peut être une solution pour se loger. Ça peut rendre service parce que t'es à l'abri. Quand il pleut, c'est mieux d'être dans une cabane comme ça que sous un arbre. T'as le confort minimum. Mais c'est pas possible vraiment de, voilà, si tu veux te marier, de vivre en couple dans une maison comme ça. Bah voilà, si tu veux fonder une famille, dans une maison qui fait, je sais pas, au sol, ça fait quoi, 10, ouais, une dizaine de mètres carrés, pas plus. On n'imagine pas vivre dans une maison comme ça toute sa vie. Si? Non. Bah tu sais que c'est comme ça qu'on peut aussi envisager l'église. On peut envisager de construire l'église de cette manière-là. Comme un endroit où on trouve le minimum, où on fait le minimum, où on donne le minimum. Une petite maison construite en bois, en foin ou en chaume, pour reprendre ce que dit Paul dans 1 Corinthiens. Il faut quand même admettre que la petite maison, elle contraste avec le temple qu'on a vu tout à l'heure. Si tu peux remettre l'image, tu as vu le temple. Entre la petite maison et le temple, je trouve que le temple, il a quand même plus d'allure. Là, c'est une maquette, il est en miniature, il est plus petit que la petite maison, mais il paraît beaucoup plus grand, parce que c'est un édifice magnifique, c'est un édifice qui est solide. En étant dans l'église, je suis dans le projet de Dieu. Et c'est sans doute à ça qu'il faut qu'on réfléchisse ce soir ensemble. On va le faire ensemble en reprenant la musique et en demandant au Saint-Esprit d'agir en nous. Mais je pense que Dieu m'invite à ne pas me contenter du minimum, mais à voir grand. Je pense que les uns et les autres, Dieu nous invite à entrer dans son projet à lui, un projet éternel, un projet qui existe depuis 2000 ans, un projet qui existe depuis longtemps et un projet qui existe depuis longtemps avant nous et un projet qui va exister encore longtemps après nous. Et Dieu nous dit, moi je veux que tu prennes ta place dans ce projet-là. Je veux que tu participes à construire, à bâtir, quelque chose de majestueux, quelque chose de riche, quelque chose de grand. Le principe de base, c'est juste de se mettre à sa disposition pour qu'il accomplisse en moi et par moi ce que lui, il veut. C'est juste une question de foi. Ok, c'est un projet divin. C'est toi qui fais les choses. Moi, je veux me mettre à ta disposition pour que je puisse être un élément par lequel tu vas agir, tu vas faire des choses. Je veux être un élément par lequel tu vas bénir le monde qui m'entoure. Je vais être un élément par lequel tu vas permettre que là j'édifie ceux qui sont avec moi, ceux qui sont dans la même communauté que moi. Je vais être un élément qui va permettre de former cette société révolutionnaire, cette société qui ne ressemble pas au monde qui nous entoure, où c'est un monde de compétition, un monde de jalousie, un monde de rivalité. Là non, on est là pour être comme des pierres soudées, pour être solides ensemble et pour pouvoir montrer au monde qu'il y a autre chose de possible, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de l'amour, qu'il y a toujours la possibilité d'avancer. Moi, je vous dis ça et je le fais avec confiance. Je ne sais pas quel sera l'avenir. Je ne sais pas si vous resterez à Angers, je ne sais pas si vous irez dans une autre ville, peut-être dans un autre pays. J'en sais rien. Mais ce que j'ai remarqué quand même, et en particulier sur cette saison, c'est que vous êtes capable de vous mobiliser. Vous êtes capable de répondre aux besoins. Je vous ai vu, vous avez répondu présent quand Yanis Gauthier est venu et quand on est allé dans le quartier là pour pouvoir porter le témoignage de l'Évangile. Vous êtes présent, vous avez répondu présent quand il y a eu la mission avec David et qu'il a fallu organiser l'accueil. Vous avez été là, vous avez été là aussi pour accompagner la prédication. Vous avez répondu présent quand on a organisé le Noël, le Noël osmose. Vous avez répondu présent quand il a été question d'être là pour accompagner le goûter des anciens. Vous avez répondu présent quand il y a eu le culte de Noël, quand il y a eu le culte de Pâques aussi la semaine dernière. Vous êtes là, vous avez participé. Vous répondez présent quand au mois de septembre, on dit il y a un rassemblement régional. Et au mois de mars, encore là, avec Actival. Ça veut dire que vous voulez recevoir, mais vous êtes capable de donner. Et à partir du moment où vous êtes dans cette disposition d'esprit, ben Dieu va faire les choses. Dieu fait les choses au travers de vous. Et ce qu'il faut que vous vous rendiez compte, et ce que vous ne devez pas douter, c'est que ce que vous accomplissez a une portée éternelle. Une portée éternelle. Auprès des amis que vous avez invités au Noël osmose. Auprès des personnes qui sont venues au culte de Pâques ou au culte de Noël. Votre mobilisation, elle a une portée éternelle. Lorsque vous êtes là, présent, et que vous êtes présent à une mission. L'Église, elle marque l'histoire de tous les continents. Elle grandit partout. Elle grandit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Elle grandit en Asie. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens en Chine, alors que c'est un pays où les chrétiens sont persécutés encore. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens en Afrique. Et toujours, je me dis, mais pourquoi est-ce que c'est dans les autres continents, c'est sur les autres pays, et que c'est pas en Europe ? C'est pas ici. Alors, elle grandit aussi, l'Église, mais pas à la même vitesse. Alors, il y a une histoire, il y a une mentalité, certainement, qui est là. Mais justement, c'est pas ça qu'il faut qu'on voit. Ce qu'il faut qu'on voit, c'est ce projet éternel. C'est ce que Dieu, lui, veut pour l'Europe, c'est ce qu'il veut pour la France, c'est ce qu'il veut pour la ville dans laquelle on est placé. Et d'adopter, là, cette vision de Dieu, ça nous permet de dire, mais ouais, mais ça va pas être que mon taf. Ça va pas reposer sur ce que je sais faire ou ce que je sais pas faire. Ça va pas reposer que sur mes efforts. Ça va reposer sur ce que Dieu va me communiquer et sur ce que je vais pouvoir transmettre. Et il va pouvoir se passer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va avoir une portée éternelle dans la vie de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Si je te dis, on peut faire des choses extraordinaires pour toucher la France et pour toucher l'Europe, tu vas dire, mais non, mais arrête. On n'est pas qui on est pour pouvoir dire ça. Ah, c'est vrai, c'est pas vrai. Sans doute, à ma dimension, c'est impossible. Je peux rien faire pour la France, je peux rien faire pour l'Europe. Mais par contre, je sais que celui pour qui rien n'est impossible me demande de me mettre à sa disposition pour qu'il se passe quelque chose. C'est juste ça la différence. J'ai juste à faire ce que j'ai à faire là où je suis avec ce que Dieu me donne. On va se recueillir ensemble pour qu'on puisse prendre conscience qu'on est des pierres vivantes. Et que pour pouvoir être une pierre vivante, il faut qu'on soit sur la pierre de fondation, sur la pierre d'angle. C'est Jésus-Christ. À chaque fois, c'est vraiment vers lui qu'on doit tourner nos regards. À chaque fois, c'est vers lui qu'on doit se tourner pour réaliser encore tout ce qu'il a accompli pour que moi, je puisse avoir la vie, pour que moi, je puisse avoir l'espoir. Tout ce qu'il a accompli pour que le Saint-Esprit vienne. Me touche, me transforme. Au départ, je suis comme une pierre qui est dans une carrière, une pierre brute. Mais là, il me taille, il m'arrache à cette pierre, à cette gange, et il fait de moi une pierre magnifique, comme celle qu'on a vue tout à l'heure, qui est taillée, qui est extraordinaire, qui est belle. Et assemblés les uns aux autres, on forme un édifice magnifique. Un édifice que les gens peuvent voir, se disent « Waouh !» Il y a quelque chose qui est possible, quelque chose d'autre que je connais qui est possible. Ça, c'est possible que si on reste fondé sur la pierre angulaire, sur la pierre de fondation qu'est Jésus-Christ. C'est possible que si on s'adresse à lui pour lui dire « Seigneur, viens opérer ce travail en moi, viens tailler où il y a besoin de tailler. Viens là agir de manière à ce que je puisse me mettre le mieux possible avec les autres pierres. Que je me heurte pas, que je dépasse pas, mais que je sois là. Je forme cet ensemble, cette assemblée. Et qu'au travers de ce que tu, là, de ce que tu me donnes, avec les autres, je puisse accomplir ton œuvre. Seigneur, viens ouvrir notre cœur ce soir. Aide-nous à prendre conscience que même si notre relation personnelle avec toi, elle est essentielle, elle est importante, on ne veut pas simplement que compter là-dessus. On veut aussi adopter la vision qui est la tienne, la vision d'une vie collective, d'une foi collective, la vision de s'unir autour d'un message qui est bon pour le groupe de jeunes, qui est bon pour l'Église, de s'unir autour de ce projet que tu veux là, ici dans cette ville, que tu veux là où nous sommes placés. Seigneur, donne-nous de pouvoir là réaliser ces choses encore par ton esprit. On a besoin. On a toujours besoin de nous laisser enseigner. On a toujours besoin de venir pour nous fonder sur la pierre que tu es. Cette pierre angulaire qui nous transmet la vie. Toi qui nous parles. Toi qui nous touches. Toi qui nous changes. Seigneur, fais-le encore ce soir, s'il te plaît. Envoie ton esprit. Afin que nous devenions ces pierres vivantes et que nous puissions constituer ce sanctuaire, ce temple magnifique. Un temple qui t'honore. Un temple dans lequel là est commémoré ce que tu as accompli, le sacrifice que Jésus a accompli pour notre salut, pour notre paix, pour notre joie. Seigneur, viens. Viens nous parler encore ce soir.